Ainsi, au cours des siècles, les chrétiens de différentes confessions se sont combattus au point parfois de s'entretuer. Dieu merci, les temps ont bien changé. Plus que de dialogue, c'est aujourd'hui de fraternité qu'on peut parler. Il faut dire que des hommes et des femmes de bonne volonté se sont levés et se sont impliqués dans ce qu'on a appelé et qu'on appelle toujours le mouvement œcuménique. Les différences restent, mais ce qui nous lie est plus fort. Bonjour Anne-Laure Danet.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et vous êtes responsable du service des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France. Alors quand on parle d'église chrétienne, ça englobe d'autres églises que les catholiques et protestantes. On parle aussi des églises orthodoxes, des églises arméniennes, enfin de toutes les églises chrétiennes présentes sur le territoire français. Je pense qu'on va peut-être se contenter de notre réalité française, ça sera plus simple. J'aimerais commencer par savoir comment le mot œcuménisme résonne à votre oreille. Comment vous le définissez ?
Alors, il a évolué aussi dans le temps. C'est un mot qui veut dire la terre habitée, et donc qui concerne au départ toutes les missions, c'est-à-dire comment on annonce l'évangile à la terre entière. Et cette terre habitée, d'abord on n'en a qu'une, et qui nous indique déjà qu'on est dans une fraternité, parce qu'on est tous de la même... Dans cette humanité, nous sommes tous semblables, nous avons tous ces liens d'interdépendance. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant d'ailleurs, avec cette question de la crise climatique, on le sent bien, et de crise climatique, mais aussi économique, sociale, etc., où ce qui se passe à un endroit concerne les autres. Et du coup, cette interdépendance, elle est aussi significative entre les églises. Aujourd'hui, on n'est pas une église toute seule, ça ne veut rien dire. Ça l'était déjà à l'origine, évidemment, hein, puisque l'Église, c'est d'abord l'Église de Dieu, et puis c'est, vous savez, dans la Bible, on prend cette image du corps du Christ, et ce corps, eh ben, il est unique, il n'y en a qu'un. Alors, il y a des formes différentes, c'est-à-dire on n'est pas tous de la même manière, mais on appartient tous à ce même corps.
Cette conscience d'appartenir tous à un même corps, il a fallu quand même y travailler, parce que je le rappelais au début de cet entretien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, aujourd'hui, on est en mesure de se voir comme frères, et c'est l'objet de notre entretien, de voir dans les différences de l'autre une richesse ?
Eh bien, c'est d'abord et avant tout l'Évangile. Lire l'Évangile, recevoir cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous rappelle que nous sommes frères et sœurs en Christ. Et frères et sœurs en humanité, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité les uns à l'égard des autres, mais sur un mode qui est formidable. Se découvrir frères et sœurs en Christ, c'est avoir découvert que Christ a fait de chacun d'entre nous son frère ou sa sœur, c'est-à-dire nous a fait enfants de Dieu. Et ça, par la seule volonté de Dieu, et sa volonté, c'est son amour. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de découvrir que le mouvement œcuménique, il a démarré avec cette démarche du dire « on veut annoncer l'Évangile au monde entier ». Et c'est sur les terres de mission, au démarrage, c'était à la fin du XIXe siècle, les anglicans et les luthéraux réformés, les églises luthériennes et réformées, et les églises anglicanes, se sont retrouvés sur les mêmes terres de mission. Et évidemment, ils avançaient chacun pour leur propre église. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que ceux à qui ils parlaient ne recevaient pas leur message, parce qu'ils disaient...
Ils ne comprenaient pas.
Nous sommes en concurrence, du coup, on n'est pas crédible, et on annonce l'amour de Dieu, mais nous, on ne le vit pas entre nous. Donc, ils ont arrêté de faire ça. Et c'est de là qu'est né le mouvement œcuménique, et qui s'est élargi progressivement. Les orthodoxes se sont mis tout de suite dans le mouvement... Et puis il a fallu attendre Vatican II, mais c'était une démarche qui était une ouverture extraordinaire quand l'Église catholique romaine a dit on rejoint ce mouvement. Et ça s'est traduit de différentes manières, mais ça voulait dire entre ces églises, alors là on est au niveau mondial, pour se traduire ensuite localement sur le terrain, ça voulait dire des vraies collaborations, et c'est comme ça qu'on a commencé à se regarder autrement que comme des concurrents ou des étrangers. On a appris à se connaître.
Thank you. Anne-Laure Danet, c'est donc au XXe siècle vraiment que le mouvement œcuménique a pris corps, qu'il s'est organisé, qu'il a suscité une adhésion de la part des différentes églises et que des hommes et des femmes se sont véritablement mis au travail aussi pour réfléchir ensemble à ce que ça voulait dire que d'être chrétien en tenant compte des différences. Ça a été une véritable aventure.
Alors, en tenant compte des différences, c'est pas venu tout de suite. Hein. Ça aurait été trop bien. C'est-à-dire, quand le mouvement œcuménique a démarré, l'idée, c'était d'abord ce recentrage sur la Bible. Et ça, c'est formidable, parce que c'est notre bien commun. Et le texte qui a été choisi, c'est celui de Jean 17. C'est cette prière de Jésus à la veille de sa mort, quand il prie pour que tous soient un, comme dit-il, le Père et moi, nous sommes un. Et cette unité, dans le mouvement œcuménique, les églises ont compris qu'elles n'avaient pas à la faire, qu'elle nous était donnée par Christ. Et ça, c'est un changement aussi considérable, parce que c'est une manière de dire, alors c'est quoi notre travail? Eh bien, c'est de rendre visible cette unité, pas à la créer. Christ est au centre. Donc, plus on se rapproche du centre, plus on se rapproche de lui, plus on se rapproche les uns des autres. Et c'est en se rapprochant de lui qu'on comprend que nos différences deviennent des richesses. Mais au début, évidemment, nos différences, elles ont été vues plutôt comme des éléments séparateurs.
Comme des obstacles.
Des obstacles, parce qu'on ne se comprenait pas. D'abord, on ne se connaissait pas assez. Et puis, vous savez très bien aussi, si on veut rester dans le contexte français, que l'Église réformée, que les réformés et les luthériens se sont plutôt construits à cause de la révocation de l'édit de Nantes, qui était ensuite une succession de persécutions des protestants. Ces protestants se sont construits au démarrage plutôt contre l'Église catholique.
On n'efface pas l'histoire.
Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans le mouvement œcuménique, et ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de dire, nous ne pouvons pas changer les faits historiques, mais la manière dont nous le racontons, ça, on peut le changer. C'est une approche qui fait partie de ce qu'on a appelé les renouvellements des dialogues œcuméniques et qui s'appelle la guérison des mémoires. C'est très exigeant parce que le principe, c'est de dire chacun raconte son récit. Alors par exemple, les réformés, ils ont raconté leur histoire protestante française, évidemment avec leur propre regard. Les catholiques ont fait la même chose. Et ensuite, l'objectif, c'est à force de discuter, d'aboutir à un récit commun. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. J'ai appris en allant faire une conférence qu'il y a eu des massacres de catholiques par des protestants et l'inverse pendant la révocation de l'édit de Nantes à Orléans. Eh bien, l'évêque et le pasteur de l'Église protestante unie ont décidé de faire ce travail. Ils l'ont fait. Et ça a changé complètement les relations. Et il y a une véritable amitié qui s'est créée et du coup des collaborations formidables.
Anne-Laure Danet, est-ce que tout ce que vous venez de raconter met les différences de côté ou les inclut, les assume?
Alors, il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'était de dire, on fait un travail pour apprendre à se connaître, donc le plus facile, on cherche les dénominateurs communs. Donc, on a trouvé ce qui nous rassemblait, c'est allé assez vite. Et ensuite, on a dit, on travaille sur nos différences, donc on les connaît parfaitement, nos différences. Mais on a dit, ça ne suffit pas, parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces différences? Alors il y a eu une démarche qui a consisté à dire, et qui est très fructueuse, qui a consisté à dire, je mets en suspens mes convictions, et puis j'essaye de comprendre quelles sont les convictions de l'autre, et de repérer ce qui manque à ma propre tradition. Et ce qui manque, que l'autre a forcément, est-ce que ça peut devenir une richesse pour ma tradition? Mais évidemment, ce n'est pas un copier-coller. C'est une adaptation à sa propre tradition. Et l'autre approche qui est aussi tout à fait formidable, c'est une méthode qu'on a appelée celle du consensus différencié, alors qui est une approche beaucoup plus dogmatique, doctrinale, et qui est très intéressante parce que là, ce n'est pas simplement relationnel, c'est déjà essentiel ça, hein, parce que ça permet de voir l'autre autrement. Je ne le vois pas comme un concurrent, je ne le vois pas comme un ennemi, ni même comme un étranger, mais je le vois comme quelqu'un qui peut m'enrichir. Donc c'est énorme. Mais l'autre, on a été encore plus loin. Cette méthode du consensus différencié, elle consiste à dire, voilà, on établit une base commune, mais qui est
complètement fiable et qui est importante sur des éléments essentiels de la foi.
Les fondamentaux.
Des fondamentaux. Et à l'intérieur de cette base, bien sûr qu'il y a des différences, et nous les gardons, et même nous les valorisons, parce qu'il ne s'agit pas de lisser nos identités, à condition que ces différences ne soient pas séparatrices. Et ça, ce qui a été génial, c'est que ça s'est fait entre l'Église catholique romaine au niveau mondial, donc là c'est le Vatican, et puis la Fédération luthérienne mondiale, sur le point de rupture qu'il y a eu à la Réforme, c'est-à-dire la compréhension du salut par la grâce. Et donc ce point de rupture, eh bien, il n'existe plus, parce qu'ensemble nous pouvons dire que nous proclamons le même salut. Et ce qui est formidable, c'est que les réformés au niveau mondial ont signé ce même accord, et les anglicans ont signé ce même accord, ainsi que l'Église méthodiste. Ça fait du monde hein, qui s'est retrouvé. Donc ce qui paraissait des impasses, voire des ruptures non négociables, deviennent des lieux où on se retrouve complètement, sans être complètement identique.
Merci beaucoup Anne Lordanet. À demain.